Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur les problèmes trouvés dans le monde en y apportant un regard biblique.
La pauvreté et la prospérité. Voici le thème qu'Yann et son invité Jean-Luc vont à présent aborder.
Depuis quelques émissions, nous réfléchissons sur les écarts qui existent entre les riches et les pauvres, et nous cherchons à apporter à ces réflexions un regard biblique. La dernière fois, nous avons vu que l'attitude du chrétien face aux démunis doit s'inspirer de celle de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit de lui qu'il était riche, mais par amour pour nous, il s'est fait pauvre, afin que tous ceux qui croient en lui puissent accéder aux riches bénédictions de Dieu. Nous devons donc suivre l'exemple de Jésus, un exemple d'amour, de générosité, de solidarité et de partage. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un texte en particulier avec mon invité. Jean-Luc, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Sur quel texte biblique souhaitez-vous que nous nous penchions aujourd'hui?
Je pense à l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 20-21, et ensuite versets 24 et 25.
Alors Jésus, regardant ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. »
Jésus semble condamner les riches ici. Est-ce donc un péché de vivre dans l'abondance?
Il faut voir les paroles de Jésus plutôt comme une remise en question ou un avertissement adressé aux riches. Sans aucun doute, l'écart entre les riches et les pauvres se creusait en Israël à l'époque de Jésus. Les riches s'occupaient-ils de leurs intérêts sans se soucier de ceux des pauvres? Refusaient-ils d'exprimer leur solidarité aux nécessiteux? Probablement. Et c'est cela que Jésus dénonce. Toutefois, il ne faut pas généraliser et penser que toute personne riche est condamnable, mais il faut plutôt se demander si je me suis enrichi. Comment donc cela est-il arrivé? Si c'est en pratiquant l'injustice, en exploitant les pauvres, en ayant recours à la corruption, alors c'est ce que Jésus condamne. Ensuite, ceux qui possèdent des biens devraient aussi se demander, est-ce que je les garde égoïstement pour moi ou est-ce que j'en fais bénéficier aux nécessiteux? Car si celui qui dispose de biens ne secourt pas son frère dans le besoin, voilà encore une attitude insouciante que Jésus condamne. Toutefois, tous les riches au temps de Jésus ne se conduisaient pas ainsi. La Bible contient des exemples de personnes aisées qui, ayant rencontré Jésus, ont changé de vie.
Donc les paroles de Jésus ont été prononcées pour émouvoir les riches, reprendre leur conscience et éveiller en eux le désir de changer de vie. Pouvez-vous nous parler de personnes riches qui ont vécu ce changement de comportement si radical?
Je pense à un homme nommé Zachée, dont le récit est relaté dans l'évangile de Luc au chapitre 19.
Effectivement, il s'agissait d'un collecteur d'impôts devenu riche en pratiquant la malhonnêteté et la corruption.
Oui, ces collecteurs d'impôts étaient très mal considérés, non seulement parce qu'ils collaboraient avec l'occupant romain, mais aussi parce que certains obligeaient les gens à donner plus qu'il ne fallait afin de pouvoir s'enrichir.
Parlez-nous donc de Zachée.
Bien que corrompu et méprisé, Zachée a eu l'occasion de rencontrer Jésus. Jésus s'intéresse au sort de tous les hommes, riches ou pauvres, il ne les rejette pas. Ainsi Jésus s'est entretenu avec Zachée, dont la vie a changé, car il dit au Seigneur « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres et, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. »
Jésus peut transformer des vies et Zachée en témoigne, parce qu'il est entré dans le salut que Jésus seul peut donner. Il a voulu mener une vie juste et honorable, et il éprouve de la compassion pour les pauvres.
Oui, nous pouvons nous en réjouir de l'exemple de Zachée. Toutefois, l'Évangile présente la recherche de la richesse comme un obstacle à la foi en Jésus.
Et que voulez-vous dire ?
Un jour, un religieux, sans doute riche, demanda à Jésus ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. Or, cet homme affirmait suivre fidèlement la loi de Moïse. Mais Jésus lui répondit : « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. »
Mais cette exhortation de vendre tous ses biens s'adresse-t-elle à tous les enfants de Dieu aujourd'hui ?
Non, ces paroles sont adressées à cet homme en particulier. Elles ont été prononcées pour lui prouver qu'il ne suivait pas la loi autant qu'il le prétendait. La loi de Moïse dit « Tu ne convoiteras pas ». Or Jésus a mis cet homme à l'épreuve. En vendant ses biens, il aurait prouvé que la convoitise n'habitait pas dans son cœur. Mais en les gardant pour lui, il montrait combien elle était enracinée dans ses pensées et combien il était attaché aux richesses.
Comment donc cet homme a-t-il réagi ?
Il a donc montré que ses richesses avaient à ses yeux plus de valeur que la vie éternelle. Aussi, il a désiré les garder pour lui et renoncer à la vie éternelle que Dieu offre. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui sont plus attachés à leurs biens plutôt qu'aux riches bénédictions de Dieu accordées par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus déclare, après son entretien avec cet homme, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Oui, je comprends que les richesses peuvent être pour beaucoup un obstacle à la foi.
Tout à fait. Ceux qui possèdent des biens s'en satisfont. Ils pensent posséder tout ce qu'il leur faut et ils n'éprouvent plus le besoin de se tourner vers l'Éternel. D'autre part, les richesses attisent la convoitise et rendent les personnes qui en bénéficient toujours plus esclaves du désir de posséder davantage. Les richesses peuvent empêcher aussi les hommes de dépendre de Dieu, de compter sur lui, et elles les poussent à devenir individualistes et à rejeter l'Éternel. Cependant, ce n'est pas l'argent ou les biens en eux-mêmes qui sont condamnables, mais plutôt l'attitude des hommes envers les richesses.
Que voulez-vous dire ?
Un homme peut se servir de son argent pour faire du bien. Certaines personnes ont participé à la fondation d'hôpitaux ou d'écoles. Elles ont pu porter secours à ceux qui étaient frappés par des catastrophes naturelles, par exemple. Les questions que Jésus nous pose aujourd'hui sont celles-ci. En qui mettons-nous notre confiance ? Dans le Seigneur ou dans les richesses de ce monde ? L'argent a-t-il une telle importance pour nous que nous sommes prêts à sortir des voies de la justice afin d'en posséder plus ? Ou bien, notre cœur est-il généreux et désireux de partager avec ceux qui se trouvent dans le manquement ?
Revenons aux paroles de Jésus citées tout à l'heure. Il s'est adressé aux riches sous forme d'avertissement, mais aussi aux nécessiteux. Et à ces derniers, il a dit « Heureux les pauvres ». Cela signifie-t-il que tout pauvre est béni par Dieu ? Et comment est-il possible d'être heureux alors que l'on est pauvre ? Ce sont les questions que je poserai à Jean-Luc la prochaine fois. Poursuivons à présent nos méditations bibliques sur les paroles de Jésus connues sous le nom de béatitude. D'abord, Hélène va lire Matthieu chapitre 5, verset 5, et ensuite notre invité Charles commentera ce verset.
Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage.
Songez parmi les personnes que vous connaissez, à celles qui ont réussi dans leur vie. La douceur est-elle un trait de leur caractère ? Malheureusement, pour ceux qui accèdent à des positions importantes, ce trait est souvent absent. Car certains se feraient un chemin dans la vie en se débarrassant de leurs rivaux. D'autres encore, pour parvenir à leur fin, en deviennent agressifs ou ont recours à la malhonnêteté. La douceur est donc souvent méprisée. Trop souvent, elle est associée, à tort, à la faiblesse ou à un manque de virilité. Mais Jésus introduit ici un nouveau paradoxe. Car comment être heureux si l'on est doux ? Comment comprendre la douceur dont Jésus parle ? De quelle attitude s'agit-il réellement ? Peut-être le meilleur commentaire de ce verset se trouve dans le psaume 37. un texte que Jésus évoquait sûrement. Méditons ensemble les premiers 11 versets de ce psaume.
« Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays, tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère. Calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu demanderas où il est passé. Il ne sera plus. Mais les doux auront le pays comme possession, et ils jouiront d'une paix profonde.
Quelle est donc la douceur dont parle Jésus? Ce psaume nous encourage à ne pas participer au cercle vicieux de la violence, car nous devons refuser tout sentiment ou acte de vengeance. Nous devons rejeter les projets corrompus ou malhonnêtes proposés par certains. Nous devons également nous garder de tout sentiment de colère ou de haine. Mais pourquoi? Parce que nous mettons notre expérience en l'Éternel. Parce que nous contentons de ce que Dieu nous accorde. Parce que nous avons aussi l'assurance que l'Éternel est juste et qu'il interviendra un jour dans les affaires corrompues de ce monde. Parce que nous avons une perspective éternelle de la vie. Nous savons que les méchants subiront un châtiment. Nous savons aussi que ceux qui se confient en l'Éternel vivront éternellement avec lui sur une nouvelle terre, dans un lieu d'harmonie, de justice et de paix. L'attente de la réalisation de cette promesse peut être difficile, mais elle en vaut la peine. Ainsi, la douceur dont Dieu parle n'est nullement synonyme de faiblesse, non, car cette douceur représente la force de croire parmi les incrédules, la force de rechercher la paix parmi les violents, la force d'être juste parmi les injustes, la force d'espérer là où semble régner le désespoir.
Nous prions pour que vous receviez de Dieu la force de reproduire la douceur de Christ dans ce monde difficile.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir et à la prochaine.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.